à la recherche de la paix. Un programme de la Voix de la Charité présenté par Sœur Brigitte May, fondatrice de la maison de prière Abana au Liban.
Chers auditeurs, bonjour. Il fait chaud et vous avez sans doute soif. Voici le Notre Père en québécois. Ô notre Père dans le ciel, que tout le monde aime ton nom, que tu viennes mettre de l'ordre là-dedans, au ciel puis ici tout aussi. Donne-nous le pain qu'on a besoin aujourd'hui. Pardonne-nous nos imbécilités pour qu'on soit capable de pardonner ceux des autres. Sors-nous de nos envies stupides, puis laisse pas l'autre nous mettre dans son trou. C'est toi le boss, jusqu'à la fin du monde. T'es vraiment le seul qu'il mérite de toute façon. Ouais, c'est certain. Considérons la prière qui plaît à Dieu, car nous voulons le réjouir. Notre Dieu est un Dieu de communion, et la prière est l'outil par lequel nous pouvons entrer en relation avec lui. Être chrétien, c'est être en communion avec Dieu, et être en communion avec Dieu exige que nous soyons un homme ou une femme de prière. La prière occupe une grande place dans la parole de Dieu et aussi dans la vie du chrétien authentique. La prière est le balbutiement d'un nouveau-né en Christ. C'est le cri du combattant chrétien de la lumière et le requiem de chaque croyant qui s'endort en Jésus. Prions sans cesse. Un jour, les disciples sont venus à Jésus lui dire « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Et chacun d'entre nous doit reprendre ce cri qui monte vers Dieu. « Enseigne-moi à prier, Seigneur. » Apprendre exige de la volonté. Apprendre demande de la persévérance. Apprendre demande de la discipline. Essayons ensemble d'étudier un peu le Notre Père qui nous enseigne l'attitude du cœur et les implications d'une prière qui plaît à Dieu. En fait, Jésus ne nous a pas enseigné le Notre Père comme une prière à rabâcher jour après jour. Il nous met plutôt en garde contre de telles pratiques. Je cite Saint Matthieu 6:7. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Le Notre Père est beaucoup plus que cela. Il nous enseigne sur Dieu, sur son désir pour notre vie et pour le monde. Il nous parle aussi de ses attentes envers ceux et celles qui sont ses disciples. Le Notre Père doit être lu lentement, dit et manduquer dans le lieu secret profond de la prière. Il y a deux manières de prier. L'une suppose une piété sincère, l'autre une foi toute puissante. L'une demande et espère, l'autre veut et attend jusqu'à ce qu'elle ait obtenu. L'une est exaucée, tant bien que mal, l'autre reçoit toujours. L'une cherche Dieu et le trouve, l'autre lutte avec Dieu et triomphe de lui. La première observe avec soin le temps de ses dévotions journalières. La seconde demeure à genoux, des heures, une heure, un jour, une nuit. La première s'accommode du cours ordinaire de la vie. La seconde veille, jeûne, crie, pleure parfois, jusqu'à transpirer du sang. La première et le chemin battu de tous les fidèles, avançant peut-être un peu mollement dans la plaine. La seconde est la voie rude, des parfaits, escaladant le rocher et rasant l'abîme. La première est la méthode irréprochable de telle sœur, de tel frère, de tel chrétien. La seconde est la méthode divine de Jacob près du torrent, de Moïse au Sinaï, d'Élie au Carmel, de Saint Trafka, de Saint Charbil, de Saint Ardini, de Stéphane Némé, de Jésus au désert, à Gethsémani et au Golgotha. La première nous est connue depuis que nous avons connu le Seigneur. La deuxième crie « Seigneur, enseigne-nous à prier. La prière concerne avant tout notre relation personnelle avec Dieu, c'est-à-dire la conversation, la communion que nous entretenons avec lui. La prière véritable est un dialogue et trouve son origine en Dieu et non dans l'homme. Certaines personnes agnostiques disent que l'homme est comme un oiseau dans une cage. Il ne peut connaître ce qui se trouve à l'extérieur. Sans le savoir, ces personnes illustrent une vérité profondément biblique. L'homme, livré à lui-même, ne peut ni chercher ni connaître Dieu de sa propre initiative. 1 Corinthiens 2, 6, 10, Romains 3, 9, B, 10. Dieu est celui qui initie la relation en se révélant à nous. C'est lui qui vient vers l'homme et l'appelle à une relation avec lui. N'est-ce pas merveilleux? Notre Dieu, notre Père, avec nous, il s'incarne en Jésus-Christ pour nous racheter et nous rétablir dans la communion avec lui que nous avions perdue à cause du péché. De tout temps, Dieu cherche des hommes et des femmes qui répondront à son appel à vivre en communion avec lui pour servir ses plans éternels. Dans le jardin d'Éden, lorsqu'Adam et Ève ont péché, ils se sont cachés loin de Dieu, craignant et redoutant la présence de leur Créateur. Pourtant, Dieu est venu vers eux et les a cherchés. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin, mêlé à la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ?» Genèse 3, 8, 9. Aujourd'hui, c'est à toi qui m'écoutes que Dieu demande « Où es-tu ? » Est-ce qu'il connaît ton adresse ? A-t-il l'habitude de venir prendre un moment avec toi ? Ou bien es-tu en train de fuir sa présence, craignant ce qu'il pourrait te dire, te faire ou te demander? Ce matin, ma prière est que tu puisses découvrir en ton Créateur non seulement ce Dieu tout-puissant, ce Dieu juge, mais aussi ce Dieu qui, pour ses enfants, est un vrai Père. C'est essentiel dans ce monde sans Père et sans repère. Jésus nous invite à nous approcher de Dieu en reconnaissant qui il est réellement, un père pour ses enfants. Pour un juif à cette époque, entendre le rabbi de Nazareth les encourager à appeler le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob notre père serait suffisant pour défriser tous les bigoudis des pharisiens présents. Appeler Dieu notre père sonne bien trop familier pour s'adresser à Dieu de la sorte. Et pourtant, pas pour le Seigneur Jésus. Tout le sermon sur la montagne est marqué par une atmosphère familiale. La relation entre le roi céleste et le membre du royaume étant celle d'un enfant avec son père, et les relations des membres du royaume entre eux, celles de frères et de sœurs. Les enfants de Dieu sont donc appelés à vivre leur vie chrétienne dans une ambiance familiale, avec Dieu et avec leurs frères et sœurs dans la foi. Voilà ce que Jésus nous démontre en disant « notre Père » et non pas « mon Père ». L'image du Père est capitale. Parfois, à cause des circonstances de la vie, l'image que nous avons d'un Père est déformée, ce qui peut avoir des répercussions sur notre perception de Dieu. Lorsque nous nous approchons de lui dans la prière, Jésus nous invite à le reconnaître pour ce qu'il est pour nous, un Père. Reconnaître Dieu comme Père, c'est reconnaître que nous sommes ses enfants. Sa paternité implique donc notre adoption. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. 1 Jean 3, 1. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père », Romains 8, 15. Lorsque nous venons dans le lieu secret de la prière en nous, nous venons avec confiance, parce que c'est lui qui nous a invités et choisis, c'est lui qui nous a adoptés, c'est parce qu'il nous aime et désire notre présence. Sa paternité implique aussi notre sécurité. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre tout, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Quel père ne protégerait pas son enfant? Il y a des gens qui parlent toujours du diable. Ils vivent tellement dans la crainte qu'ils n'osent pas prier à voix haute pour ne pas être entendus par ce dernier, etc. Si Dieu nous a adoptés, croyez-vous qu'il laisserait ses enfants à la merci de ce pauvre diable, de tout et de rien? Jamais. Tu n'es pas n'importe qui, puisque ton Père céleste n'est pas n'importe qui. Nous avons le merveilleux statut d'enfant. Lorsque nous prions, nous devons venir à lui comme un tout petit enfant. En Matthieu 18, 2, 3, je cite, « Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Venir à lui comme un petit enfant, c'est reconnaître que nous sommes dépendants de ses bons soins. La prière qui plaît à Dieu est celle qui comprend sa totale finitude et dépendance en Dieu tous les jours de sa vie. Prions.
Terre du Liban, tu gères.
Abraham Lincoln a dit « J'ai été souvent conduit sur mes genoux par la conviction écrasante que je ne pouvais aller nulle part ailleurs. Voilà une attitude que Dieu honore. Je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur, car je n'oublie pas tes commandements. » Psaume 119, 176. Venir à lui comme un petit enfant, c'est reconnaître que nous sommes en apprentissage permanent. Puisque je suis en apprentissage, cela signifie que j'ai le droit à l'erreur, j'ai le droit de trébucher et de tendre la main vers mon Père Céleste pour qu'il me relève. N'ayez pas peur de tendre vos mains vers Dieu le Père quand vous trébuchez. Osez entrer dans le lieu secret quand toutes les fibres de votre corps et toutes les forces de l'enfer semblent vous en interdire l'accès. Entrez dans le lieu secret à l'intérieur et vous y découvrirez un Père qui ne regarde pas votre faiblesse mais qui tend sa main vers vous pour vous relever. Venir à lui comme un petit enfant, c'est reconnaître que nous avons besoin parfois d'être corrigés. Séjournant en Syrie, un archéologue avait lié amitié avec un berger. Un jour, il le voit apportant de la nourriture à une brebis qui avait une patte cassée. Il demanda « Comment a-t-elle cassé sa patte? Est-elle tombée dans un ravin ou est-ce en fuyant un gros chien ?»« Ni l'un ni l'autre, dit le berger, c'est moi qui lui ai cassé la patte. » « Vous-même ! » s'écria l'archéologue, pétrifié. « Et pourquoi donc ?» Souriant de son étonnement, le berger expliqua ceci. « C'était une brebis très têtue. Elle ne voulait pas que je l'approche, ni rester avec le troupeau qu'elle risquait d'entraîner à sa suite. Elle ne pouvait que s'égarer, glisser, tomber dans un ravin ou se faire dévorer. Voyez maintenant, elle se laisse approcher, me permet de la soigner, elle apprend à me reconnaître comme son berger et à avoir confiance en moi. Cela valait bien la peine de lui casser une patte, qui au reste, eh bien, elle est vite guérie. » Quelques jours plus tard, l'archéologue rencontre le berger avec son troupeau et la brebis ayant la patte encore faible suivait le berger en boitillant. Elle était tout juste derrière lui et semblait ne plus pouvoir se détacher de son berger. N'est-ce pas ce qui nous arrive parfois, lorsque nous-mêmes nous sommes très têtus et nous nous obstinons à marcher en rébellion contre notre Dieu ou sans lui? Si vous vous êtes éloigné de Dieu et que vous vous retrouvez dans des situations terribles, je vous en supplie, revenez à Dieu et laissez-le vous soigner, vous guérir. Jésus pansera vos plaies aujourd'hui, et si vous choisissez de lui obéir pleinement, il vous emmènera vers de verts pâturages. Ici, je pense au Libanais, époux et papa d'une jeune femme avec un bébé de 4 ans. Le papa est torturé, tourmenté, parti à Abu Dhabi pour soi-disant gagner plus d'argent. Mais il est en fait tombé dans l'enfer de la tentation charnelle et ne pouvant plus être heureux avec sa sainte famille et même plus regarder son bébé en face. Attention, la volonté du Père est de voir les époux vivre ensemble, dans le même lieu, et prendre pour exemple la sainte famille de Nazareth. Gagner plus d'argent et tomber dans l'enfer. Dangereux pari contre Dieu. Que de familles détruites, ici, au Liban ou ailleurs, par ce faux problème. Prions notre Père, qui est aux cieux. Qui est aux cieux? Par ce qualificatif, Jésus nous invite à réfléchir sur la nature de notre Père céleste. Il est omnipotent, notre Dieu. Il est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Que notre prière soit inspirée par sa toute-puissance, osons demander à notre Père de grandes choses. Il est omniscient. Que notre prière soit inspirée par sa connaissance infinie, déclarons-lui notre confiance dans nos moments confus et obscurs. Il est omniprésent. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Lorsque nous prions, sachons que Dieu nous entend et qu'il est prêt, même si nos émotions nous dictent le contraire. Il est totalement saint. Faites tous vos efforts pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. Puisqu'il est saint, nous sommes aussi appelés à mener une vie de sainteté. Dans nos prières, confessons nos péchés et recherchons son pardon, sa puissance pour mener une vie pure et sainte. Il est parfait. Notre Père céleste est aux cieux. Il n'est pas comme nos pères terrestres qui sont imparfaits malgré l'amour qu'ils nous portent. Je cite Matthieu 7, 11. Si donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien, à plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Lorsque nous prions, déclarons-lui notre amour et notre confiance en sa bonté. Notre Père terrestre nous a peut-être déçus, parfois même très blessés, mais notre Père céleste ne peut nous décevoir, car il n'y a pas une ombre de malice en lui. Il est parfaitement bon et parfaitement capable de déverser sa bonté et ses bénédictions dans notre vie. La bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elle se renouvelle chaque matin. Grande est sa fidélité. Avec Charles de Foucault, prions. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi. En toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner et de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Mes amis du Liban, surtout, n'oubliez pas que même si le Liban a un président correct, vous devez l'aider là où vous demeurez, en édifiant un coin de beauté, de propreté intérieure et extérieure. Chacun de nous est responsable avec le président du Liban et de son avenir. Unissons-nous tous à sa résurrection, et alors la lumière qui vient de l'Orient, et spécialement de notre Liban, rayonnera à nouveau sur toute l'humanité occidentale. qui trop souvent s'est aveuglé et a perdu le Christ. Alors je suis certaine que c'est sur le Liban qu'apparaîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Mais nous devons encore une fois renoncer à tout notre égoïsme pour construire le Liban avec tous les autres différents de nous. Le Christ est la clé de tout ce Liban, nous le savons, ce Liban souverain dans l'Esprit Saint. Et il nous demande d'aimer comme lui tous nos frères humains, d'un amour qui se laisse crucifier, trahir ou mépriser, mais d'un amour qui continue d'aimer à l'infini. Choisissons donc ensemble le programme électoral de l'humble amour. Et notre Liban sera à nouveau ce phare de la vraie civilisation, celle de l'amour éternel, de l'amour qui ne passe pas. Amen.
À la recherche de la paix. Un programme de la Voix de la Charité présenté par Sœur Brigitte May, fondatrice de la maison de prière à Banin, au Liban.